Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 107. Et oui, c'est reparti, en tout cas pour moi, c'est reparti puisque la semaine dernière, j'étais pas trop dans un état d'esprit podcast. Vous l'avez peut-être entendu, mais le podcast avait été un peu enregistré à l'arrache parce que j'étais pas en France, donc c'était un peu la course. Mais ça, on en parle la semaine prochaine dans le minibar où je vous ai vraiment fait un début de podcast sans intro. Ça démarre au quart de tour. Vous avez l'impression que on a peut-être 10 000 sujets à traiter, que ça va être la course. Et même pas, c'est même pas ça. C'est juste que j'ai pas envie de vous laisser de répit. C'est une fuite en avant, comme vous allez le voir dans le sujet principal de cet épisode-là. Vous l'avez vu, il est sur la pochette. Mais en tout cas, voilà, on commence à fond. J'espère que vous êtes prêts pour ce podcast qui va dérouler. En tout cas, moi, je suis content quand même, ça je ne l'ai pas encore dit, de vous retrouver. Et puis voilà, on va partir pour un nouveau podcast. J'essaye de ne plus vous dire bonjour deux fois, vous dire bonjour dans l'intro, puis de vous redire bonjour après le générique. Donc voilà, on essaye de s'améliorer pour essayer de répéter le moins de choses possible, limiter les bruits de bouche, limiter les... voilà, toutes ces choses-là, là, j'en ai fait un. Normalement, je devrais être tranquille pour le reste de l'épisode, mais ça, on verra. Bref. Aujourd'hui au programme, quelques petites news jeux vidéo, parce que c'est ce dont j'ai le plus suivi, avec une actu film liée aux jeux vidéo. J'ai déjà refait des E, donc c'est terminé, ce podcast est annulé officiellement. Et puis ensuite, on passera sur le gros sujet, le jeu vidéo sur lequel je voulais vous parler. Je voulais prendre un petit peu de temps dessus, parce que c'est le gros truc qui ne mérite pas d'être dans un minibar que j'ai fait récemment. Et tout le reste, je le garde pour le minibar. Donc, loin de moi l'idée de vous vendre le minibar plus que les microbars, mais c'est un peu ça quand même. Hein, voilà, j'ai des sujets que je voudrais partager avec la plus grosse audience. Voilà, hein. C'est parti pour les actus après le jingle. Et ce petit jingle étant passé, on va se concentrer sur les 3-4 actus jeux vidéo que j'ai identifiés récemment avec aucun ordre de priorité, de plaisir davantage, mais bref, voilà. On va commencer tout de suite avec le Mario Day, donc le 10 mars, qui est déjà donc... Je ne l'ai pas identifié pour le podcast d'avant, puisque il était déjà enregistré en avance. Hein, voilà, je vous spoil un peu la cuisine, la tambouille interne de Minibar. Mais voilà, donc le Mario Day le 10 mars, où ils ont remontré Paper Mario, la millénaire, Luigi's Mansion 2, qui n'est pas un jeu Mario, donc du coup... Pourquoi ? Et aussi également des retours de Mario en console virtuelle avec Dr. Mario, Mario Golf et Mario Tennis qui sont déjà sortis sur la console virtuelle Switch liée à la Game Boy et les Game Boy Color. Bref, le plus important, c'est avec vraiment très peu de surprises, l'officialisation de la suite du Super Mario Bros. Movie. Donc, qui est repris par la même équipe de Illumination Entertainment Paris, le studio parisien, qui va donc se remettre à la tâche sur ce film prévu d'ores et déjà pour le 3 avril 2026. Donc, deux petites années pour faire un film avec un scénario dans lequel ils ont déjà usé et abusé de toutes les références possibles. La tâche s'annonce un petit peu rude, mais bon, s'ils ont autant de qualité que Nintendo, il est probable qu'ils réussissent à se dépasser, comme Nintendo a réussi à se dépasser avec les derniers Zelda. Bon, j'allais faire une vanne, mais en fait, je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Voilà. Donc voilà, c'est la news jeu vidéo film de cet épisode. J'espère que vous êtes contents, parce que des films adaptés du jeu vidéo, nous, on adore ça, surtout quand c'est bien de la merde. Ensuite, on a le Capcom Highlights 2024, qui donc est arrivé le courant du mois de... Ouais, ça c'est une vidéo, enfin une émission qui a été diffusée sur deux jours différents. Mais en gros, on n'a pas vu grand chose à part du contenu pour Street Fighter 6, Exo Primal, également du contenu pour Monster Hunter No. Voilà, qui remet des trucs. Sinon, on a vu surtout la sortie donc au mois de juin. On a représenté la sortie au mois de juin de Monster Hunter Stories 1 et 2. Donc voilà, c'était des jeux qui étaient sur Switch, 3DS pardon, n'importe quoi, 3DS à l'époque. Et surtout, un jeu qui ne m'intéresse pas, mais que je trouve vraiment très très beau, c'est Dragon's Dogma 2, qui a été remontré, qui sort, si je ne dis pas de bêtises, là, dans quelques jours, dans la semaine. Donc voilà, si vous êtes amateur de gros jeux d'action type, parce que moi je trouve que c'est assez proche quand même, enfin, visuellement, c'est très beau, c'est pas des monstres un peu fantasy, enfin dans l'abondance on voit un énorme aigle qui passe par une porte de château et qui va combattre le personnage principal et tout de la séquence de gameplay. Mais voilà, on a vraiment un côté, je trouve, Monster Hunter, un petit côté Monster Hunter, je trouve, peut-être avec plus d'action ou peut-être avec plus de... d'histoire, je sais pas, j'ai pas joué au Dragon's Dogma 1 qui m'intéressait pas trop et j'ai pas envie de jouer au 2, mais vraiment c'est beau, c'est vraiment beau, donc ça donne très très envie. Et dans la catégorie des jeux qui se ressemblent tous, on a aussi Path of the Goddess qui a été remontré, qui sortira au courant de l'année avec voilà, des gros monstres qui vous attaquent, et donc vu troisième personne, on est vraiment sur... des styles assez proches, donc probablement pas le même jeu, mais des styles assez proches. Et comme c'est pas trop mon style de jeu, à l'image des Souls-like, bah du coup, je les regarde un peu de loin en me disant « Ouais, ça a l'air bien, d'accord, et après, il y a quoi ?» Donc voilà pour ces petites annonces jeux vidéo liées à deux conférences, on va dire, de jeux vidéo. Au-delà de ça, sur le jeu vidéo en tant que tel, j'ai joué un petit peu, mais ça on en parle plus tard dans l'épisode. On en parle dans le minibar de la semaine prochaine. J'aurais pu vous faire une séquence un peu copiée ou un peu en avance du minibar, mais on prendra le temps d'en parler la semaine prochaine pour tout ce qui est hommage. Hein. Hommage, je ne citerai pas le nom de la rubrique, mais voilà, il y a eu des disparitions. Une disparition la semaine dernière voilà, qui a été un petit peu, qui a un petit peu marqué beaucoup de monde. D'ailleurs, je voudrais reparler de certains événements liés à cette disparition qui m'ont fait sourire, si je puis dire. Et donc voilà, on a un peu toutes les actus qui m'ont marqué, c'est-à-dire vous ne voyez pas grand-chose. Mais la semaine prochaine, dans l'apéro, moi j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce qu'entre les deux derniers podcasts, entre les deux enregistrements, il m'est arrivé énormément de choses. Donc voilà, ce sera l'occasion de se retrouver et de se parler franchement. Voilà pour les actus, j'ai rien d'autre à dire. Si, vite fait. Pour un peu faire mon faux journalisme, alors vraiment mon faux journalisme, j'en suis pas un et j'ai pas envie d'en être un. Voilà, Embracer qui avait racheté beaucoup de studios, quelques éditeurs qui avaient beaucoup grossi, qui attendaient un énorme contrat, semble-t-il, de plus de 2 milliards, probablement en lien avec un fonds d'investissement saoudien qui s'est retiré au dernier moment, qui ensuite a décidé qu'il fallait dégraisser, vient de revendre Saber Interactive. Un ancien fondateur de Saber, pour un montant estimé de 247 millions de dollars. Donc voilà, donc déjà Saber Interactive, un plutôt moyen éditeur qui édite vraiment beaucoup de jeux et qui est un gros morceau, se retrouve à nouveau entre guillemets indépendant. Bon, ils appartiennent à un groupe qui s'appelle Beacon Interactive maintenant. Ils partent avec certains studios, ils perdent certains studios qui ont été laissés à Embracer, mais en tout cas, voilà, le gros de Saber Interactive se détache et ils pourraient aussi racheter d'autres studios. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que est-ce que ça va être bientôt terminé, cette histoire de on vire plein de gens, on dégage plein de monde et on fait des jeux un peu moins bien. Potentiellement, quand on a un peu moins de monde et qu'on veut faire des énormes triple A, peut-être qu'on fait pas des jeux si bien, et en même temps, quand on regarde Assassin's Creed, la licence et d'autres gros triple A, on se dit qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir plein de monde pour faire des bons jeux, enfin, il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour faire des mauvais jeux. Bref, vous avez compris, j'ai perdu le sens de ma phrase, je suis extrêmement fatigué, j'espère que je serai frais la semaine prochaine pour le minibar, mais c'est pas gagné du tout. Vraiment, pas gagné du tout. Donc voilà, je suis un peu un zombie, et puis on va probablement passer... je vais faire une micro-sieste, le temps du jingle, et puis après on passe au sujet de cette semaine. Ok, désolé, je me suis un peu réveillé. C'est dur. Après le jingle, bref, on est reparti pour le sujet. Alors le sujet ne m'endort pas, c'est juste que je suis très fatigué, que je me suis endormi... Je me suis endormi pitoyablement pendant ce jingle. Mais en tout cas, on va parler de American Arcadia. Je suis content de vous parler d'American Arcadia. C'est un jeu qui m'avait fait de l'œil pendant le Summer Game Fest. Je ne sais pas si vous avez suivi les précédents Summer Game Fest, mais c'était ce jeu d'aventure qui avait un petit côté marrant et qui, en plus, était un mélange d'action, plateforme, même un petit peu énigme, on va dire, dans la présentation et qui avait un vrai côté Truman Show. Puisqu'en fait, l'histoire d'American Arcadia, c'est qu'un grand groupe a créé une ville dans laquelle ils ont enfermé des gens, qu'ils filment à longueur de temps pour faire un genre de super show télé-réalité H24 avec une application connectée où on peut suivre vraiment des modèles, tout ça. Et donc, en fait, ces gens-là, ils sont enfermés dans cette ville, ils pensent que c'est leur univers. Et on peut même, ça ce qu'on découvre au cours du jeu, mais c'est pas vraiment du spoiler, on découvre qu'on peut même se retrouver à aller visiter cette ville. Il suffit de prendre la bonne tenue, puisqu'en fait c'est une ville vraiment type années 70, donc pantalon pas de def, la coupe longue, les grosses moustaches, vraiment tout ce qui n'est plus d'actualité, mais qui reviendra probablement, parce que le style est plein de cycles. Mais voilà, donc on peut, quand on est à l'extérieur, quand on suit ce show, aller visiter l'environnement de American Arcadia, d'Arcadia, la ville d'Arcadia, plutôt, et donc aller se balader là-dedans et aller voir les gens qu'on regarde à la télé souvent. Donc vraiment, il y a tout un business là-dessus, sur ce show de télé-réalité. Mais les gens qui sont filmés, à l'image du Truman Show, qui ne filmait qu'une personne, et donc qui est entouré d'acteurs, voilà, on a plein de gens qui sont filmés, entourés d'acteurs, entourés de visiteurs qui viennent un peu voir comment est constituée la ville et donc voir comment ça fonctionne. Et là aussi, du coup, ils ne savent pas qu'ils sont filmés et qu'ils font partie d'un show télé. Voilà pour grosso modo le pitch. Le jeu est sorti au fin septembre 2023, si je dis pas de bêtises, édité par Raw Fury. Je sais pas si vous... Voilà, Raw Fury. Hein, je vais essayer d'arrêter l'accent anglais parce qu'on va encore se foutre de moi. Et développé par Out of the Blue Games. Out of the Blue Games, c'est des développeurs que moi, j'ai déjà essayé. Je n'ai pas essayé les développeurs en soi, mais leur précédente production, puisqu'ils avaient sorti en 2020 Call of the Sea, qui était un jeu d'énigmes dans lequel on interprétait une femme qui voulait retrouver son chéri sur une île un peu déserte, et donc il fallait un peu aller enquêter des choses comme ça. Et on va retrouver vaguement quelques idées de Call of the Sea, vraiment, enfin, une base. Puisqu'en fait, Call of the Sea, c'était un jeu exclusivement la première personne dans lequel il fallait donc remplir des casse-têtes, faire des choix, essayer de trouver des solutions. Un jeu très intéressant, qui m'avait beaucoup plu, j'avais passé un très bon moment dessus. Un peu casse-tête parfois, un peu embêtant. Et là, en fait, American Arcadia, on va retrouver un peu cette idée-là parce qu'on va avoir un jeu qui va avoir deux phases différentes tout le long du jeu. Une phase où on va être un peu comme dans Call of the Sea, on va devoir jouer à la première personne. On va interpréter Angela Solano, qui donc travaille pour l'émission d'une technicienne, qui travaille pour l'émission donc American Arcadia, pour le grand groupe. Qui va donc se mettre en tête de libérer quelqu'un, de dénoncer les agissements de l'entreprise et donc le manque d'humanité du fonctionnement de l'entreprise. Donc là, toutes ces phases de jeu vont être à la première personne, à la façon un peu Call of the Sea, alors pas dans le même environnement que ça, mais on retrouve une base un petit peu comme ça. Et puis ensuite, on va avoir les phases où on va interpréter Trevor Hills. Et Trevor Hills, c'est un des personnages, personnage de cette émission, un personnage qui n'est pas très apprécié dans l'émission parce qu'il y a des enquêtes de popularité, et donc il va être Trevor Hills, il va être choisi au début du jeu pour gagner un concours dans le cadre de sa vie à lui, dans le cadre du jeu, et un concours qui, semble-t-il, serait amené à l'éliminer, puisque comme il n'a pas le succès, un succès minimum suffisant pour rester dans le jeu, on préfère l'éliminer pour laisser les gens se concentrer sur les personnages les plus successful de l'émission. Donc vous allez comme ça passer d'un personnage à l'autre. Alors Trevor Hills, je l'ai pas dit, mais c'est vraiment du jeu plateforme, défilement un peu On pourrait dire, ouais, c'est un cinématique platformer, mais ça ne l'est pas du tout. Même s'il pourrait y avoir parfois quelques idées où on vient dézoomer, tout ça. Mais c'est, voilà, c'est de la plateforme où Trevor, il court quasiment tout le temps tout droit, il va tout le temps de gauche à droite. Parfois, il revient un peu de droite à gauche, mais vraiment, il court tout le temps de gauche à droite. Et donc, il va lui arriver quelques petites aventures. Et voilà, on passe d'un personnage à l'autre avec Trevor qui va se faire embrigader dans une fuite en avant pour s'échapper. Et Angela qui va essayer de l'aider du mieux qu'elle peut en parfois coupant des caméras, en manipulant des appareils comme des grues, comme des chemins pour les valises dans les aéroports, comme plein de choses. Elle va vraiment un peu intervenir sur plein de choses. Et on va comme ça tout le temps défiler entre les deux joueurs, les deux personnages, qui vont donc discuter ensemble, parce qu'elle va réussir à rentrer en contact avec Trevor, et donc essayer de l'aider au maximum pour qu'il puisse s'échapper, parce qu'il n'a pas voulu se laisser exécuter facilement. Et donc, voilà l'histoire de American Arcadia, grosso modo, sans spoiler. Alors, niveau jouabilité, ça donne quoi? Forcément, on a deux types de jouabilité, donc on va avoir deux avis, pas forcément différents, mais qui vont se compléter, parce qu'en fait, on va vraiment passer de l'un à l'autre, et on va vraiment passer de bonnes idées à moins bonnes idées. C'est vraiment pas un jeu dans lequel on va s'ennuyer, et c'est un jeu qui va parfois aller chercher un peu la niveau gameplay, la complexité, parce que parfois, on va d'un coup se retrouver à la première personne, en dirigeant Angela, on va être dans les bureaux de American Arcadia pour aller essayer de récupérer un code dans un bureau d'un collègue, donc il faut pirater des caméras, tout ça. Puis d'un coup, on repasse sur Trevor qui se fait poursuivre par des gens, donc il faut esquiver, il faut courir plus vite, il faut passer sous des trucs, passer au-dessus de trucs, faire demi-tour, voilà, tout ça. On a vraiment toutes ces choses-là. Et puis hop, on se retrouve à nouveau au contrôle de Angela, qui là, cette fois-ci, va... être dans son appartement, et en fait il y a une collègue qui va venir, et comme elle avait un peu préparé son plan pour faire échapper Trevor, et forcément elle va devoir cacher toutes les preuves pour pas se faire cramer et se faire dénoncer étant la personne qui serait à l'origine de la fuite. Et donc voilà, on passe d'un personnage à l'autre, d'un Trevor qui va parfois faire des séquences pure action où on va vraiment courir. De voir par exemple, comme il y a, je crois, dans la bande-annonce, où on doit traverser une route où il y a plein de voitures qui roulent sur une voie dans le sens où on les voit arriver, puis sur une autre voie il faut avoir plus de réflexes parce qu'elles arrivent depuis le bas de l'écran, donc on les voit beaucoup moins, et donc il faut traverser cette route là pour échapper à des policiers, donc des séquences d'action où ça va vite, puis après des séquences un peu plus tranquilles où on va parcourir des décors et on va essayer de comprendre un peu l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé avec les dialogues entre Angela et Trevor, un peu à la manière de ce qu'on pouvait avoir dans d'autres jeux où on intervenait comme ça avec plein d'autres, avec un autre personnage à la radio comme ça. J'ai oublié le nom de l'exemple que je voulais vous citer, mais vous voyez l'idée. C'est vraiment cette histoire où on a un personnage qui est présent, un personnage qui ne l'est pas, ça discute à la radio. Sauf que là, dans American Arcadia, vous êtes les deux personnages. Avec en plus de ça, je trouve un petit truc marrant qui vient régulièrement dans l'émission, c'est-à-dire régulièrement dans l'émission. Vous voyez, j'ai l'émission parce qu'il y a vraiment une tournure émission de télé qui vient faire un genre d'interview des personnages. Donc on va voir intervenir Angela et Trevor qui vont être interviewés sur un canapé ou Angela sur un canapé, Trevor comme à une table, comme à un poste de police ou comme s'il était arrêté. Et donc ils vont un peu expliciter certaines règles de leur réaction sur un genre de plan interview face à face. On va aussi avoir un policier, le chef de la sécurité d'American Arcadia, qui essaye donc d'empêcher Trevor d'arriver jusqu'à la sortie, qui va aussi être de temps en temps interviewé, où on va en apprendre un peu plus sur lui, parce qu'on le voit régulièrement. Et donc c'est assez intéressant de voir un peu les coulisses de cette émission. Dans ce jeu où en fait on pourrait croire qu'on va faire que de l'action de ça, et en fait non, des fois il y a des séquences qui sont posées, il y a des séquences où ça va speeder, puis d'un coup voilà, ça va être un peu plus rapide, on passe de l'un à l'autre. Il y a une séquence, moi, qui m'a beaucoup plu, sans trop spoiler, où en fait on interprète Angela, donc on est vraiment la première personne, et en fait on va jouer à les deux personnages en même temps, parce que Angela est suspectée d'être à la source de cette fuite, d'aider Trevor, et en fait le chef de la sécurité va venir l'interroger, il va être de l'autre côté du bureau, et donc on va interpréter Angela, et on va avoir deux écrans, et sur un écran on va avoir un questionnaire du chef de la sécurité pour prouver notre bonne foi et notre sérieux au sein de l'entreprise, et sur l'écran de gauche on va avoir Trevor qui essaye d'échapper à des gardes de sécurité en se faufilant derrière des fontaines, en se faufilant derrière des buissons, donc il faut... comme ça, marcher sur les bons rythmes, se caler derrière des fontaines, vous savez, des fontaines qui défilent. Donc il faut vraiment partir au bon moment et suivre la fontaine au bon rythme, sinon on se fait attraper. Et en même temps, on a Angela qui doit regarder l'écran de droite, donc elle doit passer on doit passer de droite à gauche pour, avec le joystick de gauche, on dirige Trevor, et puis avec le joystick de droite, on vise la bonne réponse sur l'écran de droite. Et donc ça, c'était assez intéressant. C'est peut-être le moment où j'ai passé le meilleur moment. J'ai préféré jouer Angela que Trevor. Je pense que c'est en partie parce que ils connaissent un peu cette expérience première personne avec Call of Duty. C'est plus facile, certainement, pour eux de faire ça. Et puis, il y a plein de moments où, avec Angela, on joue des trucs un peu stressants, un peu... C'est pas un jeu d'horreur ou un jeu flippant, hein, mais voilà, on est dans cette séquence où il faut faire vite, où des fois, on est dans un environnement complètement vide, et c'est un peu plus impressionnant, la première personne. On se demande si on va pas tomber sur plein de monde. Et en même temps, on joue Trevor à côté, qui est parfois tout seul, qui est parfois poursuivi par plein de policiers, mais... sur lequel on va avoir une autre phase de gameplay au-delà de tout ce qui va être courir, sauter, déplacer des objets pour monter plus haut. Ça va être le gros du gameplay avec Trevor, c'est qu'on va interpréter Trevor avec notre caméra vue de côté, et de temps en temps, dans certaines salles, dans certains endroits, comme on est dans un show télé, il y a plein de caméras, et donc là on va récupérer un plan caméra cette fois-ci, donc on va vraiment être... l'image va être déportée, on va toujours voir Trevor à peu près sur le même angle, mais pas le même, et on va pouvoir bouger, enfin... Je perds mes mots. Ouais, vous voyez, je tombe petit à petit comme une larve, et cette émission va certainement s'arrêter avec une mort cérébrale en direct. Je sais pas qui fera le montage, mais en tout cas, ça s'arrêtera peut-être comme ça. Non, on peut vraiment intervenir sur certains équipements, et par exemple, il y a une séquence moi qui m'a beaucoup, beaucoup agacé au début du jeu, vraiment. C'est que, en fait, vous êtes poursuivi par deux hommes de main qui essayent de vous empêcher de vous enfuir, qui devaient vous emmener à votre gain de concours, parce qu'à la base, Trevor, on lui dit qu'il a gagné un concours, et en fait, Angela le sauve vraiment au dernier moment, et donc lui le convainc de s'enfuir, de courir, et donc il y a une genre de course-poursuite qui s'engage, et on se retrouve à courir sur les toits des bâtiments, à sauter de toit en toit, et à un moment donné, on saute sur une grue sur laquelle on saute, qu'il va falloir tout de suite lancer pour qu'elle se tourne, et quand on va arriver, il va falloir sauter sur un genre d'échafaudage ascenseur, si je puis dire, pour échapper aux deux hommes de main qui, eux, il y en a un qui s'est arrêté au niveau de la grue, qui n'a pas pu sauter avant qu'on a lancé le retournement, et l'autre qui a fait le tour pour nous rejoindre, et donc il faut vraiment tout enchaîner très vite. Et là, le jeu, il est maladroit, il tente des choses un peu d'action, un peu speed, et en fait, quand on ne maîtrise pas le jeu, et que c'est pas facile, c'est vite énervant, parce que un coup, j'ai recommencé peut-être la séquence 10, 12, 15 fois, quoi. Le temps de bien comprendre que il faut pas que le mec il ait le temps de sauter sur la grue, d'accord, il faut vraiment que je lance le retournement de la grue direct, et que j'ai pas besoin de traverser la grue. J'aurais peut-être pu probablement ne pas tourner la grue et juste traverser la grue, mais j'ai l'impression que le mec me rattrapait. Enfin voilà, pour ceux qui... je crois que c'est dans la bande-annonce, c'était dans la démo, j'avais testé la démo. Et déjà dans la démo, ça m'a un peu énervé, et ça m'a plus énervé encore dans le jeu, donc je suis peut-être un peu trop sensible aussi, voilà. Mais du coup, les phases avec Trevor, c'est vraiment ce que j'ai le moins apprécié, il y a des phases que j'ai beaucoup appréciées, mais il y en a d'autres où vraiment ça m'a un peu agacé, il y a des phases où vraiment on va beaucoup monter, d'autres où on va vraiment être dans un plan extrêmement plat et courir sans cesse, parfois on va essayer d'échapper à un hélicoptère qui vous mitraille, qui vous tire dessus, donc il faut se cacher du bon côté... L'hélicoptère fait des retours comme ça de haut en bas. Parfois, on va se balader dans la nature. Il y a un petit côté qui m'a beaucoup plu, même si ça n'a pas cette... la portée et tout ça. Mais il y a un petit côté inside à un moment donné où on est vraiment dans la nature. On court et en fait, il y a plein de flashs, de lampes d'or, de gens qui essaient de vous retrouver. Donc, vous courez comme ça de gauche à droite. Il y a un vrai côté inside qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Parce que moi, inside, c'était vraiment un très, très gros coup de cœur. Vraiment un très grand jeu inside. Et on sent qu'ils essayent d'aller chercher un peu cette vibe inside, alors avec vraiment pas le même état d'esprit. Là, on a plutôt de l'humour et en même temps, on a plutôt de l'action. Alors qu'inside, c'était vraiment noir, sombre et Et voilà, c'était un peu compliqué, mais en même temps, on a cette phase un peu sombre où on essaye de s'échapper d'une émission de télé-réalité qui veut vous assassiner. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça d'important. Mais ça n'atteint jamais cette portée parce que ça essaye de faire trop large. Les personnages essaient d'être attachants et en même temps, ils sont un peu boulets. En même temps, voilà, on ne sait pas trop qui veut aller où. Bon, ça reste quand même un jeu intéressant. Ça ne fera pas partie de mon top de l'année, ni 2023, ni 2024. Je sais pas si vous classez vos jeux quand vous les faites ou dans leur année de sortie. J'ai pas passé un mauvais moment, c'est pas hyper long. Alors voilà, ça fait partie des moments où j'ai pas cherché exactement tout ce qu'il fallait. Donc je vais aller voir tout de suite la durée de vie estimée et la note qu'il a obtenue sur les internets. Mais c'est pas long et en même temps, c'est intéressant parce que bah on fait plusieurs... gameplay différent, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer dans un gameplay, on passe vraiment de l'un à l'autre, ça va assez vite. De ce côté-là, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un bon côté. Maintenant, je trouve qu'il y a plein de moments où le jeu est maladroit. Voilà, c'est ça, je le trouverais maladroit. Graphiquement, j'en ai pas parlé. Il y a un style que... Bah alors, bon, la DA, c'est du 70s et en même temps mélangé avec du moderne. Parce que bon voilà, ils ont, Trevor, vraiment, il a la moustache, les grosses lunettes rondes, il est habillé vraiment. À un moment donné, Angela me fait rire parce qu'elle lui dit, vous avez quel âge Trevor? Il dit, j'ai 28 ans. Elle fait, ah, on a le même âge. Alors qu'Angela, elle est habillée moderne, quoi. Elle a des petites lunettes plutôt fines, un peu carrées, avec des angles et tout, partout. Elle est habillée avec, elle a une mèche rouge, une mèche de cheveux rouge, elle est brune. Elle a un côté, je crois qu'elle est portoricaine, je crois, dans l'idée, donc... Elle a un côté très moderne, là où lui, Trevor, il va être plutôt vraiment très ancien. Ils ont quasiment le même âge et pourtant, ils n'ont pas du tout le même style. Donc, on voit que les gens qui sont dans ce monde-là, qui sont enfermés dans cette télé-réalité-là, ils sont pas comme nous parce que ils ont été casés dans un délire qui les dépasse, dont ils n'ont pas conscience et qui les met dans une situation assez inconfortable une fois qu'on en a conscience. Ça doit être probablement inconfortable, mais du coup, voilà. Donc, on annonce ça, mais graphiquement, c'est pas très très beau non plus. Je trouvais Call of Duty plus sympa, beaucoup plus classique, mais beaucoup plus sympa. Plus, c'était une belle île déserte avec du soleil, avec des bateaux écrasés, des pièges de dangereux, mortels et tout ça, où vraiment, il n'y avait pas d'action, mais vraiment, on était vraiment dans un jeu où on était sur une île déserte, il y avait de l'eau, il y avait tout ça. Là, on est vraiment dans un jeu plus fun, plus... Je trouve pas mes mots, mais voilà, plus. Je vois 15 novembre 2023 sur Open Critique, donc je vais peut-être donner une mauvaise date tout à l'heure sur mes informations. Je vais aller voir tout de suite sur Steam. Et effectivement, 15 novembre 2023, absolument pas le mois de septembre. Je me disais aussi que le jeu était, je l'avais joué il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai joué quasiment quand il est sorti, puisque je l'attendais. Donc ça fait plaisir. Alors, le jeu American Arcadia a pris une note de 79, donc c'est plutôt une bonne note. Et il est très très recommandé, ce qui n'est pas trop étonnant, mais en même temps, voilà, je préfère remettre le point sur les petits défauts que moi je lui ai trouvés, sans dire non plus que c'est nul. Hein, j'ai passé un bon moment devant American Arcadia, et ouais, bon, j'ai à peu près joué 7 heures de tête, et il a annoncé histoire et à côté à 7 heures sur How Long to Beat. Donc on est, je suis à peu près dans les stats. Voilà, et c'est disponible. Ça c'est le plus important sur PC, PS5, PS4 et les consoles Xbox également. Donc c'est vraiment disponible partout, sauf sur la Switch. Ça arrivera peut-être. C'est pas un mauvais jeu. Pour résumer, c'est un jeu qui a de bonnes qualités, qui a quelques défauts, qui a au moins l'avantage de ne pas vous enfermer dans un seul gameplay, mais qui peut avoir quelques, je trouve, petites dynamiques de scènes d'action, ou surtout de casse-tête, un peu chiante et un peu tordue. Parfois, on se dit, attends, mais on va refaire certaines choses plusieurs fois. Donc, voilà, il faut en avoir conscience. Maintenant, il y a aussi des bonnes idées. Il y a aussi plein de bonnes idées. Ça essaye de diversifier un peu les séquences. Donc il faut en avoir conscience et... pas hésiter parce que c'est actuellement sur Steam. Alors, j'ai dû me connecter sur internet, c'est 15 euros sur Steam, donc c'est pas cher, d'accord. Je sais même plus comment je l'ai payé, mais c'est pas cher. Je vous souhaite de bien jouer à American Arcadia. Voilà, on va pas perdre de temps, c'est une petite émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un mini-bar dans lequel je vais avoir beaucoup de choses à raconter. Un très gros apéro. Et puis quelques autres séquences où on va peut-être perdre du temps. On a un nanar, je sais pas si je peux le dire maintenant. Est-ce que je prends l'habitude de dire le nanar dans le dernier micro-bar? Ça pourrait être pas mal. Le nanar, la semaine prochaine, c'est choisi par Maxime et c'est un film qui s'appelle Hardware. J'ai commencé à défiler un peu le film, comme ça, vite fait. Waouh, je l'ai pas encore regardé parce que moi je la regarde au dernier moment. Si vous écoutez les mini-bars, vous êtes habitués à m'entendre dire ça. Ça va être dur, ça va être dur. J'ai peur, voilà, donc... Oh, et vous avez un super bundle, là, pour Call of the Sea et American Arcadia à 18€, au lieu de 39€. Si vous n'avez fait aucun des deux jeux, c'est vraiment très très rentable. Le jeu, normalement, est à 20€ American Arcadia. Je crois que c'est quasiment 30 balles pour... Ou à peu près, peut-être 20 balles pour Call of the Sea. Là, 18 balles les deux, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Mais bon, je reviens sur le minibar. Beaucoup de choses à se dire. Hardware en nanar. Donc, si vous voulez l'écouter, si vous voulez le regarder dans la semaine... Pour entendre nos avis, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un mini-bar et le lundi d'après pour le micro-bar 108 dans lequel on va parler de choses géniales. J'ai juste à trouver quoi. Passez une très bonne semaine. À lundi prochain. Salut tout le monde! Le jeu dont je voulais parler tout à l'heure, c'était Firewatch.